et de la croix dans la vie chrétienne. Donc, si nous voulons accepter de porter notre croix, il est important d'en comprendre le sens. Ceux qui ne connaissent pas le sens de la souffrance ont plus de mal à accepter cette loi de la souffrance. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de discourir sur la souffrance que de la supporter. Mais malgré tout, il est bon de temps en temps, au moins, d'y réfléchir, de réfléchir au pourquoi de la souffrance, hein, afin de mieux l'accepter lorsque on doit l'endurer ensuite dans notre propre vie. Donc, tout d'abord, si l'homme doit connaître la souffrance, cela tient à la chute de l'homme depuis le péché originel. Avant le péché originel, le bon Dieu voulait qu'on se sanctifie dans la joie, et uniquement dans la joie. Aujourd'hui, il y a aussi une joie, heureusement, sur la terre, chez ceux qui aiment Dieu. Mais le moyen pour nous, l'un des moyens de prouver notre amour, comme on le verra, ce sera d'accepter cette loi de la souffrance. Mais la souffrance va apparaître tout d'abord donc comme conséquence du péché. C'est le premier aspect. Donc la souffrance est née du péché. Si l'homme n'avait pas péché, il n'aurait pas connu cette loi de la souffrance. Donc la souffrance nous rappelle la gravité du péché qui offense Dieu. Donc Adam et Ève, qui au paradis, ne connaissaient pas la maladie, ne connaissaient pas la fatigue, ne connaissaient pas la douleur, et ils ne devaient pas connaître la mort. Mais à partir du moment où ils ont péché, ils ont connu et la souffrance et la mort. Cela apparaît dans le livre de la Genèse. La souffrance comme conséquence du péché. Le bon Dieu dit à l'homme, désormais tu travailleras à la sueur de ton front. La sueur symbolise la souffrance. Genèse chapitre 3, verset 17. Et à la femme, tu enfanteras de la douleur. Genèse chapitre 3, verset 16. Alors, tu enfanteras de la douleur ne signifie pas uniquement le moment même de l'enfantement, aujourd'hui d'ailleurs, les enfantements sans douleur. Mais ça signifie en fait déjà ce cycle de vie qui est présent en toute femme, qui est pour elle tantôt occasion de joie, mais aussi occasion de souffrance, et signifie aussi tout ce qui suit l'enfantement, à savoir l'éducation des enfants. Les enfants sont la joie des parents, mais sont aussi la croix des parents. Donc le tu enfanteras de la douleur signifie tout cela. La vocation de la femme, c'est de. Dans la ligne, comme on l'avait dit, de la maternité, eh bien, cet enfantement dans la douleur symbolise justement toute cette mission de la femme, mais en même temps aussi, en conséquence de cette mission, cette souffrance qui est inhérente. Donc, reconnaissons le lien qu'il y a toujours entre le péché et la mort, entre le péché et la souffrance. Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Genèse chapitre 2, verset 17. Donc ça veut dire que la mort est une bien conséquence de cette désobéissance. Et saint Paul le dit d'ailleurs aux Romains. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Romains chapitre 5, verset 12. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Une des réflexions que nous pouvons faire à la vue de la mort, c'est gravité du péché. Il faut que le péché soit grave pour avoir entraîné un tel châtiment. Et cette souffrance et cette mort, voyez, nous rappellent, nous montrent la justice de Dieu. Aujourd'hui, l'homme moderne prétend que Dieu ne serait que miséricorde, parce que ça l'arrange, bien sûr. Un Dieu uniquement miséricordieux, c'est vrai que ça nous fait plaisir. Un Dieu juste, ça nous fait, on aime moins. Et donc, l'homme veut croire que Dieu ne serait que miséricorde et qu'il ne serait pas juste. Eh bien, ce qui montre que Dieu est justice, entre autres, il n'y a pas que cela, mais la souffrance et la mort nous montrent cette justice de Dieu qui veut que le châtiment, eh bien, suive le péché. Donc, au début, voyez, dans l'histoire de l'humanité, la souffrance et la mort apparaissent comme conséquence du péché. C'est la première. La loi de la souffrance et de la mort sont arrivées en conséquence du péché. Et c'est ce qui fait que dans l'Ancien Testament, ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament ont eu beaucoup de mal à admettre la souffrance des innocents. Que des gens coupables souffrent, c'est normal, puisque la souffrance est le châtiment du péché. Si la souffrance est le châtiment du péché, comment se fait-il que des gens innocents... Eh bien, ce mystère de la souffrance des innocents, c'est un mystère, le mystère du mal, donc je ne cherche uniquement qu'à éclairer ce mystère et non pas à le résoudre, sinon ce ne serait plus un mystère. Mais c'est une lumière qui apparaît sur ce mystère, c'est dans le livre de Job. Job qui va être l'exemple même du juste souffrant. Job, qui était au départ très riche, il avait une belle femme, de beaux enfants, une propriété qui était très... les choses marchaient vraiment comme il le souhaitait, avec beaucoup d'animaux, une ferme qui marchait très bien. Et voilà que Job va être accablé de différentes manières. Donc ses animaux vont périr de maladie, ensuite c'est ses enfants qui vont mourir, ensuite lui-même va tomber malade et il va se retrouver couvert d'ulcères sur un tas de fumier. Et à ce moment-là, il va y avoir trois personnes qui vont venir le voir, le visiter dans sa maladie. Et les trois personnes, justement, vont chercher à l'aider à avouer son péché, parce que pour eux, c'est évident que s'il souffre, c'est parce qu'il a péché. Et Job sait qu'il est innocent. Et la femme de Job, joue le même rôle que les trois autres. Donc, elle dit « Avoue ton péché bon. ». Alors Job, il dit, je sais très bien que je n'ai pas péché. Mais à un moment donné, il souffre tellement que Job lui-même en arrive à convoquer Dieu. Que Dieu vienne et qu'il s'explique. Qu'il explique pourquoi il souffre. Et on va voir à la fin du livre de Job, Dieu va finir par accéder à sa demande. Dieu va apparaître. Mais voyez, comme je vous l'avais dit dans une instruction, en parlant du recouvrement de l'enfant Jésus au temple, quand Dieu apparaît, il apparaît en Dieu. Et par conséquent, loin de répondre à Job en se mettant au niveau de Job, il va répondre en Dieu. Et répondant en Dieu, il va répondre à sa question en posant une autre question, comme notre Seigneur va faire avec la Sainte Vierge en disant « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» La Sainte Vierge a posé une question à notre Seigneur, et notre Seigneur, au lieu de répondre à la question, a posé une autre question. C'est ce qui apparaît aussi dans le livre de Job. Pour répondre à cette question du mystère de la souffrance des innocents, le bon Dieu va poser d'autres questions à Job. C'est « Est-ce que tu étais là quand j'ai fait le monde ?» Alors il va lui montrer toutes les merveilles du monde. Donc il va essayer de lui montrer les lois qui sont présentes dans la création, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Est-ce que j'ai fait les astres? Est-ce que j'ai dû faire appel à toi pour savoir comment je devrais, enfin, quel type de loi je devrais créer pour que ça marche et lorsque j'ai créé les animaux, et ainsi de suite. Donc il lui montre toutes les merveilles de la création. Et par là, Job saisit la grandeur de Dieu. Et alors, en saisissant la grandeur de Dieu, il se dit, j'aurais jamais dû poser une question pareille. Il sait mieux que moi quel chemin je dois prendre pour me sauver. Et donc, du coup, Job va se remettre à sa place. Et parce qu'il saura s'humilier, le bon Dieu ensuite va le récompenser en lui redonnant les biens qu'il avait perdus auparavant. Donc ça, c'est toute l'histoire de Job. Donc premier aspect que l'on peut voir dans la souffrance est d'abord le châtiment du péché. Maintenant, il y a aussi des innocents qui souffrent. Pourquoi souffrent-ils? La réponse n'apparaît pas dans le livre de Job, mais que d'une façon indirecte, c'est que Dieu a ses desseins. Et ses desseins ne sont pas les nôtres. Les desseins de Dieu ne sont pas les nôtres. Donc Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. Maintenant, Job qui souffre et qui est innocent va être l'image du juste souffrant. Les grands personnages de l'Ancien Testament ont figuré par leur vie un des aspects de la vie de notre Seigneur lui-même. Et donc Job qui souffre et qui est innocent est une image de l'innocence même qui va souffrir pour nous racheter de nos péchés, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pensons que les grands personnages de l'Ancien Testament ont par leur vie symbolisé la vie même de notre Seigneur. Ce fut le cas de Job, Job qui souffre et qui est innocent. Ce sera aussi le cas d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham, va être sur le point d'être immolé par son père Abraham. Et lorsque, sur l'ordre de Dieu, Abraham va prendre son fils Isaac et le mener au sommet du mont Moria, Isaac va porter sur lui le bois du sacrifice sur lequel il doit être immolé. Eh bien, Isaac, qui suit son père Abraham et qui porte ainsi le bois sur lequel il doit être immolé, va être une image de notre Seigneur Jésus-Christ qui a porté sur lui le bois de la croix sur lequel il devait être immolé. Vous avez aussi dans l'Ancien Testament une autre image du juste souffrant dans le livre d'Isaïe, notamment le chapitre 53e d'Isaïe est le portrait du juste souffrant. On croirait, lorsqu'on lit ce passage, je ne prends pas le temps de le lire parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais c'est magnifique, le livre 53e d'Isaïe décrit jusque dans les moindres détails les souffrances que notre Seigneur a subies. Au point qu'on a appelé ce chapitre 53e la Passion selon Isaïe. Isaïe qui a vécu 700 ans avant notre Seigneur. Donc, ces passages de l'Ancien Testament, en fait, nous préparaient petit à petit à accepter la venue du juste souffrant que serait notre Seigneur. Donc, dans sa pédagogie, vous voyez, le bon Dieu, ici encore, n'a pas voulu se révéler d'un seul coup. Dieu se révèle petit à petit. Voyez. Quand on dit que la sainteté est une longue patience, le bon Dieu se révèle aux âmes, eh bien, petit à petit. Il y a une pédagogie que Dieu respecte et que nous devons nous-mêmes respecter. Dieu ne se révèle pas entièrement tout de suite. Et c'est ce qui fait que notre Seigneur, lui-même, ne va pas tout de suite parler de la souffrance à ses apôtres. Ce ne sera pas le premier message. Et il le fera d'une façon lente et progressive. Et malheureusement, d'ailleurs, les apôtres, il faudra attendre la résurrection pour qu'ils comprennent bien ce langage de la croix. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, voyant que nous avons beaucoup de mal à accepter cette loi de la souffrance et de la mort, a voulu, eh bien, lui-même embrasser cette loi de la souffrance et de la mort pour nous aider à mieux accepter nos propres souffrances et pour nous aider à faire en sorte que ces souffrances aujourd'hui soient méritoires. Dieu a le don de transformer les obstacles en moyens. En soi, la souffrance est un mal et le mal est un obstacle à notre épanouissement. Mais le bon Dieu sait transformer les obstacles en moyens. Ce qui jusqu'ici apparaissait uniquement comme étant un manque, qui était un obstacle à notre épanouissement, va devenir pour nous un moyen de salut. Et à travers ainsi ces souffrances, notre Seigneur a voulu nous révéler à la fois la rigueur de sa justice et l'étendue de sa miséricorde. Si, comme je vous le disais tout à l'heure, la souffrance et la mort en elles-mêmes manifestent la justice de Dieu qui n'a pas voulu laisser le péché impuni, la croix de notre Seigneur, le crucifix, nous rappelle également cette double réalité, nous rappelle la rigueur de la justice. Dieu le Père n'a pas épargné son propre Fils dans le but que le péché soit expié. Donc montrant par là que le péché doit être expié, le mal doit être expié. Donc justice de Dieu qui apparaît dans le crucifix. Il faut que le péché soit grave pour avoir mérité de telles conséquences, pour avoir produit de tels effets. Mais en même temps, et ça c'est l'aspect le plus beau, mais les deux, il faut le méditer, le crucifix nous révèle l'étendue de la miséricorde de Dieu. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait pour nous. Donc le crucifix nous révèle l'étendue de la miséricorde de Dieu. Donc, les deux questions qu'on peut se poser, est-ce que le péché est grave? Eh bien, la réponse se trouve sur le crucifix. Est-ce que le péché est grave? En regardant le crucifix, vraiment, enfin, en essayant de réaliser exactement ce que ça a été avec ces souffrances de notre Seigneur, ces souffrances indicibles nous révèlent la gravité du péché. Oui, le péché est grave. Est-ce que le bon Dieu m'aime? Regardons à nouveau le crucifix. Le crucifix nous révèle l'amour de Dieu. Et notamment à la fois par ses souffrances et également par ses paroles. Parce que, comme on l'a vu, les sept paroles du Christ en croix, d'une certaine manière, sont à peu près toutes des paroles de miséricorde. Alors, quel est le sens maintenant de nos propres souffrances? Eh bien, si on a compris le plan de Dieu, la souffrance est pour nous, aujourd'hui, pour moi, un moyen d'expiation. Comme le disait le bon larron sur la croix, nous, c'est justice si nous souffrons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Saint Luc, chapitre 23, verset 42. Donc, rappelons-nous que tout péché personnel, même pardonné, doit être expié. Alors, c'est vrai qu'il y a deux manières, il y a plusieurs manières d'expier le péché. On peut l'expier par la souffrance, on peut aussi l'expier par l'amour. Notre Seigneur nous a dit en parlant de Sainte-Marie-Madeleine, que la charité couvre une multitude de péchés. En parlant de Sainte-Marie-Madeleine, notre Seigneur disait, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc la charité couvre une multitude de péchés. Mais justement, un des modes de la charité, c'est l'acceptation de la souffrance. Le fait d'être capable de souffrir pour l'être aimé, eh bien, c'est la plus grande manifestation de charité. Ensuite, la souffrance, librement acceptée, cicatrise nos blessures contractées par le péché. Lorsqu'on est capable d'accepter cette loi de la souffrance, eh bien, le bon Dieu cicatrise ainsi les plaies de nos âmes. Lorsqu'on veut guérir un alcoolique, par exemple, on ne va pas lui proposer de se contenter de la dose normale, voyez par exemple, que peut consommer un homme mesuré. On va lui interdire tout alcool pour corriger ses excès. Eh bien, pour nous, c'est un petit peu la même chose. Il y a peut-être des mortifications qui sont indispensables si nous voulons faire en sorte de ne pas retomber dans certains travers. Donc, il est parfois nécessaire de s'interdire même des choses permises pour éviter de tomber dans des choses défendues, lorsqu'on sait qu'on est faible dans un domaine. Ensuite, alors ça c'est encore un motif plus noble, la souffrance chrétienne, il faut bien le comprendre, la souffrance chrétienne est une participation aux souffrances de notre Seigneur. Quand une personne se convertit, en général, je lui dis deux conseils. Bon, le premier, c'est la générosité. Et le deuxième, c'est la modération. Parce que souvent, les convertis veulent avancer trop vite, et du coup, après, ils se découragent. Donc, il faut qu'ils avancent progressivement. Mais ce qui est sûr, c'est que un jour ou l'autre, tout converti va rencontrer la croix. Et c'est normal. Donc, au début, le bon Dieu, souvent, lui donne du sucre pour l'encourager, et puis ensuite, il y a les tuiles qui arrivent derrière. Et là, en général, souvent, on ne comprend plus, quoi. On se dit, mais moi, je me suis donné au bon Dieu, je n'ai jamais été aussi gentil, et puis paf, voilà comment on me récompense, quoi. La claque. Mais c'est dans l'ordre des choses. Le bon Dieu éprouve ceux qu'il aime. Parce que la souffrance chrétienne est une participation aux souffrances de notre Seigneur. Donc, par ces souffrances, nous devenons, nous-mêmes, nous nous identifions à notre Seigneur, et donc, notre Seigneur, ayant connu cette loi de la souffrance, nous devons traverser, passer aussi par là. Alors souvent les souffrances au début, ça va être les souffrances liées à l'entourage. Parce que quand on se convertit, Les gens qui se convertissent sont tout heureux de se convertir, donc ils ont la joie vraiment dans le cœur. C'est donc ils disent ah ben voilà, ça y est, je me suis converti, je me suis rapproché du bon Dieu. Alors bon, ils pensent que ça va entraîner une grande joie autour d'eux, mais en fait, les gens qui sont autour d'eux, ils sont souvent la mauvaise conscience des gens qui sont autour d'eux. Et du coup, ils sont cassés, ouais, mais t'es intégriste, nanana. Bon. Donc on ramasse des baffes et on sait pas trop, enfin, on s'attend pas du tout à cela. Parce que parce que les gens qui vivent dans l'esprit du monde n'ont pas l'esprit de Dieu et donc on les agace souvent par le fait de ce que nous sommes, même avant d'avoir parlé. Hein. C'est assez rare, mais ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans le ministère que j'ai des gens qui m'ont agressé. Enfin, c'était le soutanosaur qui ça passait pas quoi. Et ce qui montre qu'on est parfois la mauvaise conscience des gens sans le vouloir. Un exemple, un tout bête, je raconte ça souvent aux séminaristes chaque année. Donc on fait chaque année le pèlerinage entre Chartres et Paris. Donc on fait la dernière étape avec des séminaristes. Et puis donc on part ici le matin assez tôt de Flavigny. Et c'est vrai que bon, les séminaristes, c'est notre première année, donc ils ont pris la soutane de février. Ils ont entre 18 et 30 ans. Et donc, voir entre 15 et 20 soutanosaures pour le chauffeur de car, ça fait beaucoup d'un coup. Alors, une année, eh bien, donc on rentre dans le car, bonjour chauffeur, et donc on est parti. Et alors, en général, on fait la prière dans le car, donc prière de prime, et puis après, je laisse une demi-heure de silence, une demi-heure d'oraison, et puis après, on dit l'Angélus, et après, je donne l'autorisation de parler. Et une année, je fais toutes les prières, tout ça. Et dès qu'on avait terminé la prière, en du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le chauffeur se tourne vers moi et dit « Oui, mais vous comprenez, moi, si c'est la messe le dimanche, c'est pas très pratique vu mon métier. Mais monsieur, Paris, c'est tout droit. Hein. Moi, je lui ai rien demandé à ce monsieur. Pendant les 3 quarts d'heure où il était là, les soutanes, oui, mais j'assiste pas à la messe et tout. » Pas très pratique dans mon métier d'assister à la messe le dimanche. Bon. Donc alors, lui encore, il réagissait encore à peu près bien, je dirais, parce qu'il a fait son examen de conscience, il est très bien. Et puis bon, il a plutôt bien réagi, quoi. Mais il y en a d'autres qui auraient fait le même examen de conscience, mais à la fin, ils auraient été furieux, quoi. Parce qu'ils ne voudraient pas se convertir, vous voyez. Et donc, il y a des gens comme ça, dès lors qu'on se convertit, eh bien, on les agace, quoi. Et donc, du coup, eh bien, on se fait casser par eux, et c'est jamais très agréable. Donc, dans ces cas-là, il faut se rappeler que nos souffrances sont une participation aux souffrances de notre Seigneur. Saint Paul le dit. « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ au profit de son corps qui est l'Église. » Colossiens, chapitre 1, verset 24. « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ au profit de son corps qui est l'Église. » Ça veut dire, en fait, que l'Église, étant le corps mystique de notre Seigneur, là où la tête est passée, le corps doit passer. Et donc, moi-même, comme je suis un membre de Jésus, de cette Église, eh bien, je dois aussi connaître cette loi de la souffrance. Donc, c'est sûr que les souffrances de notre Seigneur, il ne manque rien aux souffrances de notre Seigneur, dans le sens où notre Seigneur, par ses souffrances, a été capable de racheter le monde entier. Mais là où lui est passé, moi-même, en tant que membre de son Église, je dois aussi passer. Donc de la même manière que notre Seigneur prie par son Église, prie dans son Église, eh bien, il souffre aussi à travers les membres de son Église. Donc notre Seigneur continue à agir dans les membres de l'Église, à prier à travers les membres de l'Église, mais aussi à souffrir par les membres de l'Église. Qui va vous aider à le comprendre, c'est une citation de notre Seigneur. Lorsque notre Seigneur va apparaître à Saul, le futur Saint Paul, eh bien, notre Seigneur va essayer de faire prendre conscience de son péché. Saul, qui était persécuteur des chrétiens. Eh bien, notre Seigneur n'a pas dit « Saul, Saul, pourquoi ?» persécutes-tu les chrétiens ? pourquoi est-ce que tu persécutes mes disciples ? Mais il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Donc vous voyez que notre Seigneur s'identifiait aux chrétiens. Donc montrant par là que notre Seigneur agit et souffre à travers les membres de son Église. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 4. Et c'est ce qui explique que les âmes saintes, qui ont satisfait pour leurs propres péchés et qui sont affermies dans le bien, pour eux, la souffrance devient un moyen d'imitation plus parfaite de notre Seigneur. Pensons aussi à offrir nos souffrances pour le soulagement des âmes du purgatoire. En acceptant nos souffrances et en les offrant pour les âmes qui sont dans le purgatoire, nous pouvons abréger leur purgatoire. Voici ce que disait le général de Saunis. Travaillons pour ces chères âmes, souffrons pour nos défunts. Combien la mortification n'est-elle pas douce lorsqu'on pense que ces souffrances volontaires servent à payer les dettes de ceux que nous avons aimés. Si lâche que je sois, la pensée de faire du bien aux êtres chéris dont je suis séparé par la mort m'aide puissamment à porter ma croix. Donc, général de Saunis, qui a eu une très belle vie, parmi les moyens pour lui de sanctification, lorsqu'il devait endurer une souffrance, il avait le réflexe d'offrir cette souffrance aussi, en partie au moins, pour soulager ses défunts. Si lâche que je sois, la pensée de faire du bien aux êtres chéris dont je suis séparé par la mort m'aide puissamment à porter ma croix. La souffrance est aussi parfois envoyée par Dieu pour permettre aux âmes de revenir vers lui. Grâce à Dieu, dans le ministère, j'ai vu beaucoup d'âmes revenir à Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont rapprochés de Dieu. Eh bien, je peux dire que j'ai pas fait de statistiques, mais 90%, je pense, 85-90% de personnes qui se rapprochent de la religion, se rapprochent de la religion par la souffrance. C'est la souffrance qui est le moyen utilisé par Dieu pour les ramener dans le droit chemin. Et donc là encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit que c'est bien ce qui s'est passé dans l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, tant qu'il avait de l'argent à dépenser, eh bien, il a fait la fête, tout allait très bien. Mais quand il s'est retrouvé après avec plus un sou et il n'arrivait à peine à manger ce qu'on donnait à manger au cochon, il s'est dit, bah, finalement, chez mon père, j'étais quand même pas si malheureux que ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a commencé à revenir en lui-même et puis à se dire, bah, finalement, j'étais pas si malheureux et donc il faudrait peut-être que je retourne chez lui. Alors je ne sais pas trop comment je vais être accueilli, donc au début, il avait un peu peur. Mais finalement, son père l'a accueilli, comme vous le savez, en lui faisant un festin pour lui. Mais en tout cas, ce qui a été l'occasion de son retour, vous voyez, c'est l'état misérable dans lequel il a été réduit. Et sans doute que s'il avait eu plus d'argent et qu'il aurait pu continuer à faire la fête, il n'aurait pas pensé à revenir chez son père. Un exemple que je vous donne parmi d'autres, hein, dans le ministère. Une dame, un jour, me téléphone et me dit « Je voudrais faire baptiser... un de mes enfants, faire baptiser mes enfants, pardon. » Alors, je lui dis, oui, pas de problème. Bon, est-ce que c'est possible chez vous ? Alors, je dis, oui, pas de problème, très bien. Alors, quand est-ce que vous pouvez venir me voir ? Donc, elle me dit, ben, je viendrai demain. Donc, elle vient le lendemain, mais alors, avant de raccrocher, je lui dis, alors, c'est à quel nom ? Alors, elle dit, moi, je m'appelle Mademoiselle Untel, et puis donc, je vis donc avec Monsieur Untel. Très bien. À quel âge ont vos enfants ? Donc, l'aîné à 4 ans et demi, deuxième à 2 ans. Très bien. 3 ans, peut-être, je ne sais plus. Alors, je dis, oui, très bien. Donc, le lendemain, les voilà qui arrivent. Et elle était, en fait, enceinte. Donc, elle attendait un autre enfant. Donc, ils étaient très, très bien disposés. Tous les deux étaient vraiment, enfin, très, très bien disposés. Mais ensuite, à un moment donné, bon, la conversation était un petit peu longue. J'ai fait mon premier catéchisme. Je fais toujours dans ces cas-là. Et la dame désirait ensuite me parler individuellement. Alors, bon, je l'ai entendu. Et donc, elle m'a expliqué, en fait, que peu de temps auparavant, elle venait de perdre un de ses enfants, et donc l'enfant qu'elle attendait, c'était son quatrième, et elle a perdu son troisième enfant, qui malheureusement est mort sans baptême. Et du coup, eh bien, c'est ça, cette mort, c'est terrible, mais la mort de cet enfant sans baptême, elle avait bien l'intention de faire baptiser ses enfants, mais seulement elle ne connaissait pas de prêtre, elle ne savait pas trop qui prendre comme parrain marraine. Bon, c'est des questions, enfin, c'est pas des questions que des gens peuvent se poser. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'elle avait tardé. Et ensuite, c'est la mort de son enfant qui lui fait prendre conscience de la nécessité de faire baptiser ses enfants. Alors en fait, j'ai pu ensuite baptiser deux enfants. Après, j'ai pu marier les parents, et puis après, j'ai pu baptiser le quatrième enfant qui est né. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter ce sursaut de retour vers Dieu. Donc la souffrance, le bon Dieu, vous voyez, l'envoie parfois, ou au moins la permet, pour permettre à des âmes qui s'étaient éloignées de lui de revenir vers lui. Et c'est bien cette pédagogie du bon Dieu, ou cette stratégie du bon Dieu, qui est décrite dans le livre que vous pourrez lire éventuellement, des dialogues de Sainte Catherine de Sienne. Dans ce dialogue, c'est notre Seigneur qui parle à Sainte Catherine de Sienne. Et dans la quatrième réponse, notre Seigneur dit ceci: j'ai voulu détourner l'homme de placer son espérance dans le monde, pour l'amener à courir droit à moi qui suis sa fin. Et j'ai pensé que du moins les coups répétés des tristesses humaines lui apprendraient à placer plus haut son cœur et ses désirs. Donc on voit bien ce plan de Dieu, vous voyez. J'ai pensé que du moins les coups répétés des tristesses humaines lui apprendraient à placer plus haut son cœur et ses désirs. Alors malheureusement, et vous le savez aussi bien que moi, la souffrance va rapprocher certaines âmes de Dieu, et d'autres âmes, malheureusement, cette même souffrance va les en éloigner. Parce que certaines personnes vont s'endurcir encore davantage face à la souffrance. Et ça, c'est le mystère après de la liberté humaine. Autre motif encore à nos souffrances, le bon Dieu aussi nous envoie certaines croix, dans le but de nous faire soupirer après la vie éternelle. La vie sur terre est un purgatoire, peut en partie être un ciel anticipé, ça dépend beaucoup de nous et des efforts de chacun. Elle est parfois d'ailleurs aussi pour certaines âmes un véritable enfer, et là ça n'est lié qu'à la malice de l'homme et à la... pour le bon Dieu, la vie sur terre devrait être soit un purgatoire, soit un ciel, mais non pas un enfer, ça c'est évident. Mais donc la souffrance nous est parfois envoyée pour nous faire soupirer après la vie éternelle. Parce que si, imaginons, vous voyez, que sur cette terre, qui est donc un purgatoire, eh bien, éternelle. Parce que nous ayons tout ce qu'il nous faut, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut, à peu près, je pense, mais enfin, si les choses allaient exactement comme on le souhaitait, toujours, eh bien, on s'installerait après encore plus sur cette terre, quoi. Donc, on aurait de moins en moins envie d'aller de l'autre côté, quoi. Donc, plus la vie sur terre se rapproche du paradis, et moins on peut avoir le désir d'aller de l'autre côté. Alors, c'est pas forcément le seul motif qui doit nous attirer vers le ciel, mais c'est un des motifs que le bon Dieu veut bien utiliser. C'est sûr que on le voit bien d'ailleurs quand les âmes souffrent, parfois elles ont le désir de mourir pour pouvoir, bon, à la fois de libérer la souffrance et puis en même temps aussi pour pouvoir se jouir de la vie éternelle. C'est ce que disait le père de Foucault dans une lettre qu'il écrivait en février 1905. Les peines de la terre sont faites pour nous faire sentir l'exil et nous faire soupirer après la patrie. Les peines de la terre sont faites pour nous faire sentir l'exil et nous faire soupirer après la patrie. Il y a pour nous toujours le risque que nous nous installions trop sur la terre, que nous considérions la terre comme étant la vraie vie. Et considérer la terre comme la vraie vie, et oublier ensuite la vie éternelle, eh bien, c'est l'écueil le plus terrible. Parce qu'on n'est pas fait pour la terre, on est fait pour le ciel. Donc, pour nous rappeler qu'on est fait pour le ciel et que nous ne sommes pas encore au ciel, le bon Dieu permet que notre vie soit parsemée d'embûches. Et puis enfin, dernier aspect, la souffrance nous est envoyée aussi comme moyen d'exprimer notre amour. C'est un moyen d'exprimer notre amour. Si une personne, voyez, si parfois pour reconnaître le degré d'amour d'une personne pour nous, il faut voir ce qu'elle est capable de souffrir pour nous. Si elle nous abandonne, qu'elle nous plaque dès la moindre difficulté, c'est le signe qu'elle ne nous aime pas vraiment. Ça m'est arrivé dans le ministère, un fait par exemple, d'une jeune femme de 24-25 ans peut-être, vient me voir avec un jeune homme de peut-être, je ne sais pas, une trentaine d'années, en me demandant de les préparer au mariage, en sachant qu'elle devait être enceinte de 2 mois et demi ou 3 mois. Et je ne les connaissais donc ni l'un ni l'autre. Ils étaient déjà venus à ma messe, mais bon, je les avais vus, bonjour, et puis ça s'arrêtait là. Alors, ils voulaient que je les marie dans les 2 mois. Alors moi-même, vous savez, quand ça arrive, cette situation, autrefois, bon, on demandait toujours aux jeunes de se marier, parce que comme ça, c'était... ça permettait bon, à l'enfant, bien sûr, d'avoir un père et une mère. Et puis, surtout aussi, au niveau de l'entourage, bon, ça permettait après de voiler un peu la situation. Aujourd'hui, où les gens divorcent pour un rien, eh bien, ce n'est pas forcément toujours la meilleure chose que, même dans un cas pareil, les jeunes se marient. Donc moi, j'insistais, en général, quand un cas pareil se produit, j'insiste pour savoir si vraiment ils sont très attachés l'un à l'autre. Alors, je voulais savoir si j'étais bien attaché l'un à l'autre. Dit, oui, bien sûr, pas de problème. Alors, je les ai vus chaque semaine, pendant peut-être 4 ou 5 semaines, et puis après, ils disparaissent. Pas de la dire. Donc, je ne les revois plus. Alors, le temps passe, et puis finalement, peut-être 3 ou 4 semaines après la dernière entrevue, je reçois un coup de téléphone de la femme qui me dit qu'elle a fait une grossesse extra-utérine, donc que l'enfant est mort, et que lui l'a plaqué en ce moment-là. Donc, je ne dis pas après que leur façon de vivre était idéale, ça c'était une évidence, hein. Mais au moins du côté de ce jeune homme, je voulais savoir s'ils étaient vraiment bien attachés l'un à l'autre. Ils disaient oui, oui, et la plaquer au moment où elle venait de perdre son enfant, ce n'était pas forcément le meilleur moment, vous voyez. Donc la souffrance est le moyen parfois de connaître la valeur de l'amour que quelqu'un nous porte. De notre côté à nous, c'est le moyen d'exprimer notre amour et en même temps aussi c'est le moyen de reconnaître l'amour des gens qui nous entourent. Sainte Catherine de Sienne disait « La tribulation est le signe qui nous fait juger de la perfection ou de l'imperfection de la charité dans une âme. » Car il n'y a pas d'autre moyen de prouver à Dieu qu'on l'aime que de supporter avec patience les épreuves de cette vie. Si nous supportons avec patience les épreuves de cette vie, c'est un signe authentique de notre véritable amour de Dieu. Est-ce que j'aime Dieu ? Bien, est-ce que je suis capable d'accepter les souffrances qu'il m'envoie pour faire mon salut ? Si je râle chaque fois que j'ai une souffrance, eh bien, peut-être que mon amour de Dieu n'est pas encore tout à fait pur. Alors c'est sûr qu'on peut dire que le bon Dieu nous envoie ses souffrances pour précisément tester la valeur de notre amour. Le bon Dieu veut, quand on dit que le bon Dieu nous éprouve, vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Éprouver, ça veut dire, il veut que nous puissions prouver notre amour, et le moyen, un des moyens, c'est l'épreuve. Sainte Thérèse d'Avila disait, Dieu conduit ceux qu'il aime par la voie des épreuves, et plus il les aime, plus il leur envoie des preuves. On n'aime pas trop entendre ça, mais bon, c'est comme ça. Chemin de la perfection, chapitre 20. Maintenant, alors, il y a toujours ceux qui sont de nature inquiète, c'est qu'est-ce qui va m'arriver. Bon, je vais essayer d'aimer Dieu, mais autant qu'eux, mais pas plus, hein, parce que sinon, j'aurai encore plus d'épreuves. Mais faut faire confiance. Le bon Dieu donne les grâces au fur et à mesure. Et Sainte Thérèse d'Avila, quand elle disait ça, elle parlait d'expérience. Elle aimait beaucoup le bon Dieu, mais le bon Dieu l'aimait beaucoup aussi. Un jour, qu'elle allait d'un Carmel à l'autre, elle s'est retrouvée les quatre fers en l'air. Et en ce moment-là, elle avait eu cette réflexion, parce qu'elle avait une nature, les saints se permettent parfois d'avoir des rapports assez familiers avec le bon Dieu. Mon Dieu, je comprends Pourquoi vous avez si peu d'amis quand je vois comment vous les traitez? Donc pensons bien, vous voyez, les épreuves ne sont pas le signe que le bon Dieu nous a abandonnés. C'est parfois le réflexe qu'on a de se dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tant de... Sans doute qu'il doit vous aimer. Enfin, j'aimerais qu'il m'aime un peu moins. Alors c'est vrai qu'on a, on a pas, on voit pas, on voit que un aspect aujourd'hui, c'est cet aspect de la souffrance, mais il y a l'aspect de la couronne après qu'il faudrait voir. C'est que le bon Dieu veut embellir notre couronne au ciel pour l'éternité. Et donc chaque souffrance librement acceptée, c'est un embellissement de notre couronne pour l'éternité. Notre place au ciel sera plus belle et plus pour toute l'éternité. Donc il faut demander au bon Dieu de nous donner l'amour, sa charité, que sa charité prenne vraiment possession de nos âmes pour nous permettre de mieux accepter nos propres épreuves. Sainte Thérèse d'Avila dit encore, je suis persuadé que la force de supporter une grande croix ou une petite a pour mesure celle de l'amour. Je suis persuadé que la force de supporter une grande croix ou une petite a pour mesure celle de l'amour. Donc plus on aime, plus notre amour sera grand, profond, et plus ben, nous serons capables d'accepter la croix. Alors maintenant, quelques autres réflexions. Par rapport aux épreuves qui nous arrivent chaque jour, il faudrait arriver au moins au premier degré, le deuxième c'est mieux, le troisième sera encore mieux, mais au moins le premier degré d'accepter les épreuves de providence qui viennent. Donc il faut d'abord accepter l'épreuve. Ensuite, la démarche suivante, qui doit être concomitante avec la première d'ailleurs, c'est l'offrir. Offrir cette souffrance. La troisième, qui est plus dure, c'est de remercier. Mais bon, apprenons déjà à accepter et offrir. Quelques autres conseils donnés par l'auteur du livre L'Ermitage sur la manière de porter notre croix. Tout ce qui est douloureux physiquement, moralement, spirituellement, quel qu'en soit l'instrument, homme, chose, événement, même si vous en êtes la cause, a valeur de croix pour l'esprit de foi. Donc tout ce qui est douloureux a valeur de croix. Il vous suffit d'accepter et d'offrir, donc c'est vrai, c'est les deux premières étapes, les conséquences pénibles de vos fautes ou de vos maladresses. L'Église appelle heureux péché la désastreuse faiblesse d'Adam. Donc même nos fautes passées, il ne tient qu'à nous d'en tirer un bien. Le péché est un mal, mais on peut toujours en tirer un bien. Les suites ennuyeuses de vos égarements, amoureusement portées, en sont la meilleure pénitence. Si vous avez fait des bêtises dans le passé, aujourd'hui vous pouvez encore réparer ces bêtises, en acceptant les conséquences de vos bêtises. Les suites ennuyeuses de vos égarements, amoureusement portées, en sont la meilleure pénitence. Faites ainsi, vous aurez toujours la paix. Il se peut que le Seigneur alourdisse votre croix. Il a tant de manières d'éprouver ce merveilleux instrument de souffrance qu'est la sensibilité. Alors c'est vrai, en plus, les femmes ont sans doute une plus grande capacité que les hommes à souffrir, parce que la sensibilité est beaucoup plus profonde. Lui qui l'a faite la touche en artiste. Dieu nous prend toujours au sérieux. Vous aurez parfois envie de le lui reprocher. C'est pour ça qu'il ne faut pas demander trop vite au bon Dieu, envoyez-moi des épreuves, il risquerait de vous exaucer. Seul un regard vers le crucifix peut étouffer vos murmures, sans pour autant volatiliser vos souffrances. Vous voyez, il ne faut pas croire que parce que vous serez plus chrétienne, que vous serez plus généreuse, que vous n'éprouverez plus cet aspect crucifiant de l'épreuve, cet aspect douloureux. Le bon Dieu ne fait pas fondre la douleur. La douleur est là, elle reste. Seulement, eh bien, on la porte mieux, mais il y a un aspect douloureux et crucifiant qui demeure. Donc le bon Dieu est capable de nous aider à étouffer nos murmures, sans pour autant volatiliser nos souffrances. Si vous aimez intensément, vous désirez être étendu sur la croix. Si vous aimez intensément, vous désirerez être étendu sur la croix. Mais chaque chose en son temps. Peut-être que vous y êtes, tant mieux, grâce à Dieu. Remerciez dans le bon Dieu. Mais si vous n'y êtes pas, ne vous inquiétez pas. Il y a différentes étapes, on va le voir. Ce désir est un sommet. Ne vous désolez pas d'en être loin. C'est bien déjà de ne jamais vous révolter ni fuir. Jésus lui-même n'est pas monté au calvaire dans une marche triomphale. Ne le quittez pas des yeux. Reprenez la passion de notre Seigneur et vous verrez que dans la passion de notre Seigneur, on voit très très bien que notre Seigneur, il a eu des mouvements de sa sensibilité, des mouvements de recul par rapport à la croix. Certes, il a ajouté que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la vôtre. Mais Seigneur, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Si notre Seigneur a eu même ce mouvement de recul par rapport à la croix, ne soyons pas surpris. Nous ne voulons pas faire de l'angélisme en pensant qu'on sera capable de porter notre croix comme ça, avec le sourire et sans difficulté. Songez, vous dit saint Paul, à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Défiez-vous, ça c'est peut-être encore plus vrai pour vous que pour nous, que pour les femmes que pour les hommes, défiez-vous de l'enthousiasme d'imprimerie. Il est facile d'écrire à son bureau des sublimités. La Sainte Écriture est plus réaliste, plus au fait du pauvre cœur humain. Dieu qui l'a inspiré est aussi celui qui nous a modelés. Et nos doléances, amoureusement résignées, ne peuvent lui déplaire quand elles s'adressent à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Nos gémissements ont ému le cœur d'où jaillit une telle parole. S'il ne faut jamais se plaindre de Dieu aux hommes, il admet que nous lui fassions de doux reproches. Oui, le doux reproche, par exemple, de Sainte Marthe, qui dit « Seigneur, si vous aviez été là, mon frère ne serait pas mort. » Le bon Dieu le permet. Il permet que nous fassions ainsi de doux reproches. Vous porterez vos croix sans forfanterie. Ni la grâce qui vous soutient, ni l'énergie de votre correspondance ne leur ôteront leur caractère pénible. La nature continuera de geindre et d'éprouver la même horreur pour ceux qui la lacèrent et la broient. La même envie de fuir ce qui la moleste. La croix ne serait plus la croix si elle cessait d'affliger. Seule la partie spirituelle de votre âme pourra s'en réjouir, encore que cette joie, elle ne l'appuisera pas en elle-même, elle est un don de Dieu. Donc, dans les grandes souffrances, il se peut que le sommet de notre âme, en quelque sorte, reste uni au bon Dieu, mais tout le reste est dans le brouillard. Et ça, c'est comme ça, c'est notre nature qui est ainsi faite. L'ermite, parce qu'ici il parle des ermites, bon, c'est vrai du catholique en général, le catholique doit beaucoup prier. Craignez votre faiblesse. Vous n'êtes pas plus brave que les apôtres qui se récriaient à la prophétie de Jésus. Vous allez vous scandaliser à cause de moi cette nuit même, ce qui arriva. Votre seule assurance est que Jésus ait pitié pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Soyez humble, ne devancez pas la grâce. Donc c'est ce que vous disiez, donc ne demandez pas forcément au bon Dieu de vous donner des croix. Donc soyez humbles, ne devancez pas la grâce. Portez de votre mieux les croix de Providence avant d'en souhaiter de plus lourdes. Donc il s'agit, vous voyez, quand on parle de la croix, il y a toujours certains ou certaines personnes qui imaginent des choses terribles qui vont se produire. La croix, c'est tout simplement ce qui se produit du matin au soir dans votre vie, toutes les petites contrariétés qui vous arrivent du matin au soir. C'est cela qu'il faut accepter. Donc soyez humbles, ne devancez pas la grâce. Portez de votre mieux les croix de Providence avant d'en souhaiter de plus lourdes. Le danger lointain n'effraie pas, combien sont paralysés à son approche. Pourtant, demandez l'amour de la croix. Donc ne demandez pas la croix, mais demandez l'amour de la croix. La résignation est l'infime degré de l'adhésion à la volonté de Dieu. Elle manque de chaleur et d'élan. Donc on peut, face à une croix, donc être résigné. C'est le premier degré. Donc je suis résigné, c'est-à-dire que je crispe un peu mon dos, puis bon, j'attends que ça passe, quoi. Ça, c'est la résignation. Maintenant, il faudrait essayer d'avoir un accueil positif. Et ça, c'est la partie positive, donc la meilleure réaction, mais qui ne viendra pas forcément toujours. La résignation est l'infime degré de l'adhésion à la volonté de Dieu. Elle manque de chaleur et d'élan. Elle laisse comme un arrière-goût de regret. Autre chose est d'accepter ce que Dieu veut, autre chose est de l'accueillir, de le vouloir positivement avec lui dans la claire vue du bien de la croix. Donc c'est pour ça que c'est bien le matin, dès le matin, d'offrir par avance les épreuves de la journée. Si on s'apprend tous les matins à dire « Seigneur, je sais très bien que je ne suis pas au paradis, je ne cherche pas le paradis sur la terre, je sais très bien que j'ai encore du purgatoire à faire, j'accepte par avance les contrariétés qui m'arriveront dans cette journée pour faire mon salut », eh bien, si on a cette approche positive, on acceptera mieux les contrariétés. Mais si on part du principe que toutes les choses doivent se passer comme on les a souhaitées, à la première contradiction, on réagira mal. Parce qu'on estimera que ce n'est pas normal. Et pourquoi le bon Dieu encore, il a permis ceci ou cela? Et donc il faut apprendre à offrir positivement, par avance, nos épreuves. Et c'est ce qui nous permet ensuite de mieux les accepter. Alors, pour être capable d'accepter positivement, que faut-il faire? L'auteur nous dit, vous ne pouvez vous donner à vous-même cette illumination dynamique. De longues méditations sur la passion vous y préparent. La prière instante et la générosité dans les sacrifices courants inclinent le Seigneur à vous faire cette grâce. Mais vous porterez longtemps, sans doute, l'humiliation d'une secrète aversion pour la croix. Donc pendant longtemps, vous aurez cette humiliation de sentir que la croix vous fait mal et qu'on ne veut pas trop en entendre parler et qu'on préfère le paradis. Et dernier conseil, tout au moins, ne fuyez pas à la première alerte, ne criez pas pour une égratignure. Pensons aussi, comme dit Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, que le bon Dieu a taillé une croix à notre dimension. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se comparer aux autres. Certaines personnes voudraient être mariées, ne sont pas mariées, d'autres qui sont mariées, n'ont pas d'enfants, d'autres qui ont des enfants voudraient ne pas en avoir tant, d'autres qui ont des enfants mais voudraient certes en avoir autant, mais pas aussi pénible. Bon, c'est comme ça. D'autres voudraient que leur mari soit encore là et en fait le bon Dieu l'a rappelé à eux. D'autres préféraient peut-être que... Bon, enfin... Chacun ses épreuves. Il faut accepter celles que le bon Dieu nous donne. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Oui, c'est ça. Je voulais vous dire que le bon Dieu a taillé une croix à notre dimension. Donc, il y a, dans chaque croix, il y a l'épaisseur de la croix, la longueur, la largeur et la profondeur. Et surtout, l'aspect de croix que je voulais voir avec vous, c'est la question de la longueur. Donc, d'abord, il y a l'épaisseur. Donc, l'épaisseur de la croix, c'est les pertes de biens, les humiliations, les mépris, les douleurs, les maladies, les peines spirituelles. Donc, différents genres de peines, quoi. C'est l'épaisseur. Ensuite, la longueur, c'est la durée. Et chaque croix est limitée dans la durée. Et donc, ça doit nous aider. Parce que parfois, notre problème, vous voyez, c'est que on a tendance à allonger nous-mêmes notre croix. Oui, ça fait 15 ans que ça dure, j'arriverai jamais à tenir encore 30 ans comme ça. Donc, vous portez 45 ans de croix sur le moment, quoi. Alors, je comprends que ça fasse mal, hein. Il faut essayer de porter aujourd'hui la croix d'aujourd'hui et se dire que chaque épreuve est limitée. Après la pluie vient le beau temps. Donc quand on est dans un tunnel, eh bien il faut attendre la sortie du tunnel, mais vous savez très bien que vous êtes déjà passé par des tunnels et après le tunnel, il y a eu la sortie. Il y a des séries noires dans la vie, hein, c'est vrai, il y a des moments dans toute vie humaine, il y a des moments où le bon Dieu, j'appelle ça la loi des séries, il y a des séries d'épreuves, paf, que vous devez traverser, mais ne perdez pas courage. Après, ça ira mieux. Donc la longueur de notre croix, la largeur de notre croix, la largeur, ce sont les circonstances qui rendent parfois nos croix plus pénibles. Le fait de souffrir de la part de telle personne, et ainsi de suite. La profondeur de la croix, là, ce sont les peines cachées que chacun éprouve en lui-même. Ce qui aussi alourdit la croix parfois, c'est les soucis. C'est-à-dire que on n'a pas l'esprit suffisamment libre pour accomplir son devoir. Donc le souci, il faut essayer, ça c'est un des intérêts d'une retraite, hein, d'oublier ses soucis. Le souci, c'est ça pèse sur l'esprit, sur le cœur, sur l'âme, et ça empoisonne un peu notre existence. Donc il faut apprendre à s'abandonner entre les mains de Dieu. Donc se dire, on n'a pas la grâce pour demain. Le bon Dieu donne la grâce au jour le jour. Donc comme je n'ai pas la grâce pour demain, ce n'est pas la peine de m'inquiéter pour demain. À chaque jour suffit sa peine. C'est notre Seigneur lui-même qui l'a dit. Et spécialement, les soucis ont tendance parfois à revenir précisément au moment de la prière. Quand on est pris par nos activités, bon ben, on fait ce qu'on a à faire. Et arrive le moment de la prière, alors c'est là, à ce moment-là, qu'on se met à ressasser encore. Donc, pendant la prière, il faut au contraire essayer d'évacuer. Il y a une parole de la Sainte Écriture qui dit « Jette tes soucis en Dieu et lui-même te soutiendra. » « Jette tes soucis en Dieu et lui-même te soutiendra. » Ça veut dire que trop souvent, on porte notre croix tout seul. Si on la portait à deux, elle serait moins lourde. Donc si je jette mes soucis en Dieu, ben, notre Seigneur va m'aider à porter ma croix. Et à ce moment-là, elle sera moins lourde. Parmi également les croix que nous avons à supporter, il faut le savoir que c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est la vie commune. Donc ça veut dire que c'est la vie en famille ou en communauté, un aspect pénible. Nos proches sont à la fois notre joie, mais sont aussi notre croix. Il y a la croix de la solitude, mais il y a aussi la croix de la vie commune. Et ce qui est intéressant ici à noter, c'est le Dom Armion, dans le Christ idéal du moine, dit que après toutes les pénitences que l'Église donne, enfin donnait à son époque, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pénitences, enfin, très peu de pénitences aujourd'hui données par l'Église, mais il disait à la suite de la pénitence de l'Église, il disait que la pénitence la plus lourde, c'était d'abord la vie commune. Et c'est intéressant à noter parce que quand on le sait, disons, on l'accepte mieux. Il faut se dire qu'il y a des efforts à faire, les uns et les autres, pour essayer d'adoucir cette vie commune. Mais le fait de ne pas être toujours sur la même longueur d'onde, c'est inhérent à nos natures humaines. Et alors, surtout entre hommes et femmes, c'est encore plus difficile. Hein. Parce qu'on a chacun notre manière de voir, donc c'est comme ça. Donc ici, il s'agissait de moines. Donc on voit ce qui se passe chez les moines d'abord. Après, je vous laisse la transposition chez vous. Si adoucie qu'elle soit par la charité fraternelle, si fervemment que règne la dilection mutuelle, donc l'amour mutuel, la vie commune comporte encore une grande part de souffrance. Nous nous aimons beaucoup, mutuellement. Nous avons les uns pour les autres une sincère affection. Et pourtant, sans le vouloir, souvent sans le savoir, nous nous heurtons entre nous. Cela tient à la condition même de notre pauvre nature humaine. Depuis le péché, nous sommes tous, dit saint Augustin, des hommes sujets à la mort, infirmes, fragiles, portant des vases d'argile qui se gênent les uns les autres. L'histoire de la vie des saints est remplie de ces désaccords, de ces malentendus, de ces dissentiments qui résultent du tempérament, du caractère, de la tournure d'esprit, de l'éducation, de l'idéal rêvé par chacun. N'y eut-il dans les monastères que de saints religieux, dignes de canonisation, qu'ils auraient encore à souffrir de la vie commune. Et cette souffrance peut être d'autant plus aiguë que l'esprit est plus affiné et l'âme plus délicate. Aucune communauté, si fervente soit-elle, à quelque ordre qu'elle appartienne, n'échappe à cette loi, pas plus que n'y ont échappé les plus grands saints. Voyez les apôtres. N'étaient-ils pas à la meilleure école de sainteté ? Les apôtres, ils ont fait 3 ans de séminaire avec notre Seigneur. C'est un extraordinaire. 3 ans de vie publique. Pendant 3 ans, ils ont pu contempler le Christ Jésus, entendre sa doctrine, être sous l'influence directe de sa divine grâce. Or, que lisons-nous dans l'Évangile ? Deux demandent, à l'exclusion des autres, une place spéciale dans le royaume du Christ. Avant la scène, ils se disputent encore pour savoir qui d'entre eux possédera la prééminence, à tel point que notre Seigneur doit de nouveau les reprendre. Plus tard, Saint-Pierre et Saint-Paul ont eu des désaccords. Saint-Barnabé, qui pendant tout un temps a accompagné Saint-Paul dans ses prédications, doit un jour se séparer de lui, ils ne s'entendent plus. Saint-Jérôme et Saint-Augustin ne se sont pas toujours compris, pas plus que Saint-Charles-Borromée et Saint-Philippe de Néry. Ainsi, la nature humaine a parfois de telles faiblesses, de telles lacunes, que même les âmes qui recherchent sincèrement Dieu et sont très unies entre elles dans la charité du Christ sont les unes pour les autres de vrais sujets de mortification. Et cela se produit sous tous les climats, sous toutes les latitudes, dans toutes les communautés du monde. Or, endurer ces ennuis chaque jour avec patience, avec charité, sans jamais se plaindre, constitue une très réelle mortification. Aussi, le saint patriarche, qui avait une si grande expérience du cœur humain, qui savait que partout la nature humaine, même chez les meilleurs, a ses infirmités et ses misères, insiste-t-il sur notre devoir de supporter mutuellement nos défauts avec une patience parfaite. Qu'en est-ce ces petits dissentiments qu'il appelle si bien des épines de scandale? Il veut que nous ne laissions pas le soleil se coucher sur notre ressentiment, afin de ne pas donner à celui-ci le temps de prendre racine. Donc c'est important. Le pape XII aussi le disait, dans des conseils à des jeunes ménages, il disait, conseil qu'il donnait à de jeunes époux, ne jamais se coucher sur sa colère. Donc on se dispute, c'est pas très bien, mais bon, c'est la nature humaine, mais au moins ne jamais se coucher sur sa colère, pour ne pas laisser la rancune prendre racine. Dans la Sainte Liturgie elle-même, donc le Père Benoît, le Saint Benoît, introduit à ce sujet une pratique qui s'inspire du plus pur esprit de l'Évangile. À l'abbé, il prescrit de réciter publiquement chaque jour au cœur, au laude et à vêpres, le Pater Noster, au nom de la famille monastique. Donc voilà, si je vous disais ça, c'est pas pour se dire, ah ben c'est bien, on peut continuer à se disputer, même il paraît qu'ils disputent aussi au couvent, donc il n'y a pas de problème. Ce n'est pas du tout le but, c'est de se dire que le fait d'avoir des difficultés à s'entendre, c'est ce que je veux dire, des difficultés à s'entendre, c'est normal. Et donc ça veut dire qu'on doit tous faire des efforts pour faire en sorte que ça aille mieux. Parce que je suis toujours intimement convaincu que les choses peuvent aller mieux si chacun y met du sien. Et c'est l'expérience qui le montre. Voilà. Enfin, dernier petit conseil, qui se trouve, dernier au pluriel, je pense que c'est dans Saint-Louis-Marguerite de Montfort, dans la lettre aux amis de la croix. Saint-Louis-Marguerite de Montfort qui dit qu'on doit porter sa croix, bon, c'est le premier conseil, donc pas la traîner, mais la porter. Ensuite, suivre notre Seigneur, et puis après, c'est là qu'il donne ses conseils. Donc, ne pas alourdir sa croix inutilement. Donc, comme je vous ai dit, ne pas porter aujourd'hui la croix de demain. À chaque jour suffit sa peine. Donc, premièrement, ne pas alourdir sa croix inutilement. Ensuite, deuxièmement, admirer sans prétendre l'atteindre la sublime vertu des saints. Donc, il y a certaines personnes qui veulent tout de suite, à l'issue d'une vie de saint, voudraient exactement pareil. Eh bien, non. Les saints sont parfois plus admirables qu'imitables. Donc, on doit admirer les saints, mais pas forcément vouloir les imiter jusque dans les détails. Ils ont reçu des grâces que nous n'avons pas. Ensuite, troisième conseil, s'humilier de ses fautes sans se troubler. Donc vous voyez, c'est de l'orgueil que d'avoir du mal à reconnaître qu'on est tombé. Et donc, on ne doit pas se troubler outre mesure de ses fautes. Donc il y a un trouble qui vient au début, c'est normal. Mais il faut dépasser cela très vite. Ensuite, il donne comme conseil, tirer profit des petites souffrances autant que des grandes. Parce que vous voyez, Dieu ne regarde pas tant ce que l'on souffre que la manière dont on le souffre. Donc de la manière qu'il ne regarde pas nos actions, mais l'intention qui anime nos actions, le bon Dieu ne voit pas tant ce que l'on souffre que la manière dont on souffre. Souffrir beaucoup et souffrir mal, c'est souffrir en damné. Souffrir beaucoup avec courage, mais pour une mauvaise cause, c'est souffrir comme martyr du démon. Souffrir peu ou beaucoup, mais souffrir pour Dieu, c'est souffrir en saint. Donc, accepter les petites souffrances. Si on sait offrir les petites souffrances, eh bien, on va embellir notre couronne pour le ciel. Il dit... Faites comme le marchand au comptoir, ne laissez pas perdre la moindre parcelle de la vraie croix, quand ce ne serait qu'une petite injure à supporter, un petit trouble dans l'âme, une lassitude dans le corps. Faites profit de tout comme l'épicier de sa boutique, et bientôt vous deviendrez riche en Dieu. À la moindre traverse, dites « Dieu soit béni ». puis caché dans la mémoire de Dieu, qui est comme notre comptoir, la croix que vous veniez de gagner. Donc si on se plaint toujours de la moindre contrariété, en ce moment-là, notre souffrance perd de son mérite. Mais si on sait l'accepter en silence, eh bien... Bon, maintenant, il peut y avoir des fois où on peut se soulager auprès d'autrui, hein, mais il ne faut pas forcément le faire tout le temps. Ensuite, on doit aimer la croix d'un amour non sensible, mais raisonnable et surnaturel. Donc vous voyez, si vous avez une répugnance sensible par rapport à la croix, c'est normal. On ne peut pas aimer la croix dans sa sensibilité, parce que c'est notre sensibilité, c'est, eh bien, elle aime ce qui la flatte, et elle déteste ce qui lui fait mal. C'est logique. Donc même notre Seigneur n'a pas aimé la croix d'un amour sensible. Il l'a aimé d'un amour spirituel, mais pas sensible. Donc il est impossible d'aimer la croix d'un point de vue sensible. Souffrir toutes sortes de croix sans exception et sans choix. Les meilleures croix sont celles qu'on ne choisit pas. Et puis enfin, les quatre stimulants de la bonne souffrance. L'œil de Dieu qui regarde avec amour les âmes qui souffrent pour lui. La main de Dieu qui nous frappe en raison de nos péchés, mais aussi la main de Dieu qui nous soutient pour nous aider à grandir. Donc l'œil de Dieu, la main de Dieu, troisième stimulant de la bonne souffrance, les plaies de notre Seigneur, se rappeler ce que notre Seigneur a souffert, et puis enfin, la récompense promise aux élus et le châtiment des pécheurs. Donc bien sûr, je reconnais que c'est beaucoup plus facile de parler de la souffrance, c'est pas trop difficile, que de la supporter, ce que je vous disais au début. Mais il est vrai aussi que pour vous-même, comme pour moi-même, le jour où une grande croix se produit, eh bien, en ce moment-là, il y a comme un voile qui se met devant nous, si bien qu'on ne comprend pas. Donc c'est comme ça. Mais ce qu'il faut s'habituer, c'est en tout cas, quand les choses vont bien, je dirais, c'est d'essayer de faire en sorte que ces choses pénètrent en nous, que ces réalités de la foi catholique pénètrent en nous, de telle sorte qu'au moins on ne se révolte pas lorsque la croix vient. Et à ce moment-là, ce n'est souvent qu'après du temps qu'on finit par nous rendre compte que le bon Dieu a permis cela pour un bien qui paraissait caché au début, mais qui ensuite, après, se révèle petit à petit. Voilà. Donc retenons que pour mieux porter notre croix, il faut développer en nous la charité. C'est notre degré d'amour qui va nous aider à mieux supporter la croix que le bon Dieu nous envoie. Et puis ensuite, l'abandon à la providence, donc ne pas s'inquiéter à l'avance de ce qui pourra nous arriver au cours de notre vie, mais faire confiance au bon Dieu qui sait mieux que nous ce qui nous convient.